Chapitre 7. Joli avancement. Déranville, dont la fortune était diminuée de moitié, fut obligé de vendre sa maison de Bagneux. L'on croirait que Jeannette dut alors revenir à Paris, point du tout. Rosalie, qui s'était habituée à son absence, lui ordonna de se rendre sur le champ, à une petite ferme qu'elle possédait, avec une habitation de plaisance, dans les environs de Meudon, sur les hauteurs de Sèvres. Jeannette obéit sans murmure et, sans passer même par Paris, elle se rendit à cette ferme, nommée la Bergerie, où elle trouva au moins dans le fermier sa femme et son fils, des gens plus honnêtes, plus doux que la Dupré et son mari. Jeannette était là pour avoir l'œil sur tout, il fallait bien un prétexte pour l'y reléguer, et cette espèce d'inspection lui donnant du poids sur le fermier, elle en reçut plus d'égards et vécut plus heureuse pendant plusieurs années. Cependant, Madame Déranville avait formé un projet pour ce qu'elle appelait l'avancement de Jeannette. Le fermier de la Bergerie était un homme âgé, sa femme était infirme, mais ils avaient un fils nommé Richard, qui était un grand garçon plein de force et d'activité. Il avait 25 ans, Jeannette en avait 22. Madame Déranville songeait à les marier tous deux et à donner une petite rente au père Richard afin qu'il laissât sa ferme aux jeunes gens. Rosalie avait fait consentir son faible époux à cet arrangement. Le père Richard et sa femme regardaient ce mariage comme un bonheur pour eux. Leur fils le savait et Jeannette était la seule qui ignora tous ces beaux projets. Elle remarquait bien que, depuis quelques mois, le jeune Richard était plus empressé, plus galant auprès d'elle, mais elle n'en devinait pas le motif. Un jour, elle reçut une lettre qui la prévenait de se rendre à Paris pour y dîner avec M. et Mme Déranville. Dîner avec eux, c'était une faveur que Jeannette n'avait pas obtenue depuis bien longtemps. Jeannette, qui chérissait ses bienfaiteurs, sentit son cœur battre délicieusement. Elle se para de ses plus frais ajustements et, au jour indiqué, elle partit pour Paris. Jeannette, en entrant à l'hôtel Déranville, fut bien agréablement surprise quand elle s'y vit recevoir par une jeune personne charmante qui, loin de lui témoigner de la hauteur, lui sauta au col en l'appelant sa bonne amie. C'était Cécile. Cécile était grande, formée, elle avait 16 ans et tous les charmes de cet âge, comme ceux de la beauté, étaient répandus sur son extérieur, qui était des plus séduisants. « Eh quoi ?» lui dit Jeannette, émue jusqu'aux larmes. « Mademoiselle a la bonté de me reconnaître ?»« Me crois-tu donc assez ingrate, ma bonne Jeannette, pour oublier l'amie de mon enfance, la compagne de mes jeux et de mes innocents plaisirs ?» « Jamais, Jeannette, jamais je n'oublierai mon amie !» Et Cécile l'embrassa de nouveau. Une semblable effusion était un bonheur inouï pour la sensible Jeannette. Sa reconnaissance fut si vive qu'elle lui arracha des larmes que la bonne Cécile s'empressa d'essuyer. Madame Déranville entra dans ce moment. « Qu'est-ce que c'est donc ? » dit-elle étonnée. « Que ces yeux rouges que je vous vois toutes deux ?» « Ah, maman, il y a si longtemps que je n'ai vu Jeannette !»« C'est votre faute, ma fille, » répondit Madame Déranville un peu piquée. « Il fallait aller la voir à Bagneux, à la Bergerie. Puisque vous l'aimez tant, il fallait aller y vivre avec elle. »« Maman, pardon, je ne pense pas t'avoir déplu en témoignant de l'amitié à celle que, dès mon enfance, tu me prescrivis de chérir comme une seconde sœur. » « Qui vous dit, mademoiselle, que vous m'avez déplu? Croyez-vous que je n'aime pas autant que vous cette bonne fille? Mais je ne pleure pas, moi, là, comme une imbécile. » Jeannette ne disait rien pendant cette petite scène. Elle souffrait moins pour elle que pour l'expansive Cécile, à qui l'on faisait un reproche si dur devant elle. Jeannette n'en voulut point à sa bienfaitrice, elle se dit seulement au fond de son cœur « L'absence m'a-t-elle donné de nouveaux torts ?» M. Déranville parut frappé, en revoyant Jeannette, des charmes que l'âge avait répandus sur toute sa personne. Il lui en fit même, tout haut, un compliment qui déplut beaucoup à son épouse. On dîna assez tristement. Déranville était soucieux et Rosalie, qui comptait la cinquantaine, était devenue froide, composée, ce qui n'échappa point à la sagacité de Jeannette. Au dessert, Madame d'Hérenville prit un ton sérieux qui annonçait bien la gravité et l'ennui du sujet qu'elle allait traiter. « Jeannette, dit-elle à notre héroïne, si je vous ai mandé ici aujourd'hui, c'est pour vous faire part d'un projet que monsieur et moi, nous avons formé pour votre bonheur et qui, mieux que mes discours, prouvera à ma fille que nous vous aimons autant que qui que ce soit et que nous avons su vous aimer avant elle. Écoutez-moi. » Jeannette baise la main de sa bienfaitrice et celle-ci continue. « Vous vous rappelez, Jeannette, à quelle époque Dieu vous envoya vers nous, pauvre orpheline, et nous prescrivit le devoir de vous retirer de son temple pour vous élever avec tous les soins maternels ? Vous n'aviez alors que 4 ans, Jeannette. Nous étions privés de la douceur d'être père, et votre adoption nous donna cette douce illusion jusqu'au moment où Dieu, touché sans doute de mes prières ferventes, m'accorda le bonheur de donner le jour à Cécile. » Dès ce moment, je vous l'avouerai, dut-on m'en blâmer, toutes mes affections se tournèrent vers ce fruit tant désiré de l'hymen et de l'amour. Je l'aimais tant qu'en vous laissant près d'elle une place dans mon cœur, c'est une véritable obligation que vous devez m'avoir. Ne m'interrompez pas. Cécile, devenant de droit notre héritière naturelle, j'ai senti que j'avais fait une faute en vous donnant le goût du luxe, de la parure et surtout des talents qui n'appartiennent qu'au grand monde et qui vous devenaient inutiles dans l'état que le ciel vous assignait désormais. Je revins sur mes pas, il en était encore temps, et je ne vous donnais plus que l'éducation nécessaire à une femme privée de naissance, de fortune, appelée seulement à un état d'ouvrier dans la société. J'ai réussi à faire de vous une personne très intéressante et telle que je la désirais dans l'état que je vous destinais. Diverses circonstances m'ont empêché de vous établir plus tôt, mais vous avez 22 ans, c'est déjà trop pour une fille, c'est l'âge qu'il faut pour une bonne ménagère. Je vous marie donc et je vous donne 1 200 livres de dot. Vous voyez que je remplis mes engagements envers le ciel et vous. » Jeannette rougit à cette proposition et sentit ses forces l'abandonner. Ce n'était pas que Jeannette eût une passion dans le cœur, elle n'aimait personne d'amour. Mais toujours triste, sombre, mélancolique, elle n'avait aucun goût pour le mariage. La solitude et la liberté, voilà ce qu'elle chérissait. Elle baissa donc les yeux et ne répondit point. « Vous gardez le silence, Jeannette, lui dit Madame d'Hérenville étonnée. Vous ne me demandez pas quel est l'homme que j'ai choisi pour l'associer à votre sort ?»« Quel qu'il soit, madame, balbutia Jeannette, je ne doute point que votre choix ne soit dicté par la prudence et la raison. » »« À coup sûr, il est, mon enfant. Tu connais le jeune Richard ?»« Richard, madame. » Oui, mon enfant, c'est lui que je te donne. Il est bien fait et très aimable. C'est un bon travailleur, cela n'a point de défaut. Il t'aime, je le sais, son père se retire, je vous donne la gestion de ma ferme et nous voilà heureux. Hein, tu ne dis mot ? Vous ne répondez point, Jeannette. Vous baissez les yeux et je m'aperçois qu'une rougeur subite couvre votre front. D'où vient cette rougeur, Jeannette ? De plaisir, sans doute, car je n'ose supposer qu'elle naisse de l'orgueil. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que vous fûtes, ce que vous êtes, et je crois que vous sentez aussi bien que moi qu'il vous est impossible d'aspirer à un parti plus élevé que celui qu'on vous propose. » Jeannette se lève. Madame d'Hérenville lui dit « Où allez-vous ? » « Me jeter à vos pieds !» s'écrie la pauvre Jeannette en fondant en larmes et en s'y précipitant en effet. « Oui, madame, je veux les arroser de mes pleurs, ces pieds que j'embrasse. Daignez croire, ô ma généreuse bienfaitrice, qu'il n'entre aucun motif de vanité dans le refus que j'ose faire de cette dernière preuve de votre tendresse pour moi. Est-ce à une pauvre enfant trouvée à calculer les rangs ? À Dieu ne plaise que j'ai cet amour-propre. Richard est un honnête homme, il me fait sans doute trop d'honneur en me recherchant. » Mais le mariage est trop loin de ma pensée pour accepter sa main. Laissez-moi, madame, vous consacrer mes jours, ma liberté, tout mon être. Que je sois sans cesse près de vous, dévouée à vos moindres ordres, et mon sort sera trop heureux. Qu'est-ce que cela veut dire, Jeannette ? Aimeriez-vous quelqu'un ? Oui, madame, oui, j'aime, j'adore un être céleste, une créature angélique, qui a pris soin de mon enfance abandonnée, qui m'a retiré du gouffre de l'indigence pour me recevoir dans ses bras maternels. Voilà le seul être que j'aime, la seule personne à laquelle je consacre mon existence. Elle a tout mon cœur. Jamais ce cœur ne battra pour un autre. Il est impossible d'y remplacer son image, ni d'y placer un autre à côté de cette image sacrée. » En disant ces mots, Jeannette baignait les mains de Rosalie des larmes de la reconnaissance. Rosalie, attendrie et dont la bonté fondait le caractère, laissa échapper quelques pleurs que Déranville et sa fille se hâtèrent d'essuyer. Rosalie, touchée de ce dévouement, sentit tous ses projets s'évanouir. Elle ne put que dire, émue, à la sensible Jeannette « Relève-toi, ma fille, relève-toi et réponds-moi avec franchise et sincérité. Est-ce bien vrai que l'amour ne te parle pour qui que ce soit ?»« Oh, pour personne, madame !»« Est-il bien vrai que tu te sens pour l'hymen un éloignement ?»« Irrésistible !» « Tu veux vivre toujours avec nous ?»« Toujours, oh, toujours !»« Embrasse-moi, mon enfant, je ne veux point forcer ton inclination. Je suis fâchée de t'avoir fait de la peine, je croyais au contraire te donner une marque de mon attachement. Cela te contrarie, n'en parlons plus. Reste, Jeannette, reste à la ferme, et pour y adoucir tes ennuis, je veux t'y donner une compagne que ton cœur sans doute ne refusera pas. » « C'est ma fille, c'est ma chère Cécile. »« Que dites-vous, madame? Quoi, j'aurai le bonheur? Oh, mon amie !» Jeannette dit ce mot en embrassant Cécile. Puis elle ajouta soudain « Pardon, madame, pardon de cette liberté que... »« Appelle-la ton amie !» s'écria madame d'Héranville. « Elle l'est, je veux qu'elle le soit toujours. »« N'approuves-tu pas, d'Héranville, ce projet pour notre tranquillité ?» L'année 1788 t'a été funeste par la perte de ton procès. L'année 1789, qui finit, semble nous annoncer des événements non moins fâcheux. Cette révolution qui vient de s'opérer dans toute la France a mis Paris en combustion. Ce séjour n'est pas tranquille. J'ai dessein d'envoyer ma fille à la ferme de la Bergerie. Moi-même, j'irai y passer quelque temps avec elle. « Et si tu fais bien, mon ami, tu viendras t'y réfugier toi-même pour laisser passer les premiers mouvements de l'effervescence populaire. »« Ma chère, répondit d'Héranville, il ne serait ni juste ni prudent que je quittasse Paris dans un moment où cette ville a besoin de tous ses habitants. J'y resterai, moi, mais j'approuve beaucoup ton projet et j'y souscris de bon cœur. » « Mon ami, si tu restes, je veillerai près de toi, je partagerai tes dangers ou je tâcherai de les éloigner. Mais pour Cécile, il ne serait pas mal. » Tu as raison, confions Cécile aux soins de Jeannette, qui, plus âgée qu'elle, a toute la raison en partage. Et nous, voyons où les événements nous conduiront. » D'Héranville laissa échapper un soupir, comme s'il avait un pressentiment des malheurs qui l'attendaient. Son épouse et Cécile accablèrent d'amitié la bonne Jeannette qui, pour la première fois depuis longtemps, retrouva les cœurs de ses bienfaiteurs et toute la tendresse qu'ils lui avaient témoignée dans son enfance.